Bonjour, bienvenue au podcast Terroir en ce 17 juin 2020. Je vous lève mon verre. Qu'est-ce que je bois aujourd'hui? En tout cas, première chose, j'ai très hâte de parler avec nos invités. Mais je vous présente évidemment le produit que je bois. Ça s'appelle Zéphyr. C'est un vin de fraises. C'est à 16,5% d'alcool. C'est un peu comme un style Porto, j'imagine, parce qu'en fait, j'ai pas goûté encore. Je vais le goûter live en direct. Mais j'aime beaucoup, en fait, Domaine Mont-Vezeau. Ce qu'ils font, c'est, vu qu'on est dans le temps en ce moment des fraises, je me suis dit, c'est exactement ce qu'on a besoin en ce moment. Ça nous fait un petit verre, justement, qui est d'une couleur très... lui, c'est un 2017. C'est très... Il y a du rouge, le rouge pétant, mais il y a comme un look vieilli un petit peu. Donc, on a vraiment le look un peu brun Porto, si on veut. Et ça sent sérieusement magnifiquement bon. Ça sent les fraises à plein nez. On sent pas vraiment, il n'y a pas d'attaque d'alcool ou quoi que ce soit. C'est quelque chose de vraiment sharp. Je vais me permettre même de dégoûter puis de... Ouah, ouais! Ah oui! Ah, c'est vraiment bon! Justement, on va chercher la portion... Hey, je me répète tout le temps. On va chercher la portion un peu plus, justement, Porto, caramélisée, si on veut, avec la fraise. C'est super bon. C'est normalement supposé d'être servi entre 6 et 8 degrés. J'avais malheureusement oublié de le mettre au frigo puis de le retirer. Alors, j'y ai acheté une petite glace, mais ça peut servir facilement, justement, soit comme dans un... J'imagine que ça peut servir dans un kir. On peut le servir dans un kir sans problème. Mais juste comme ça, sur glace... moi, je le prendrais comme en dessert à la fin là, du repas. Là, tu dis un petit digestif. Là, super agréable. Et voilà, Domaine Mont-Vezeau. Puis comme je disais, celui-là, c'est Zéphyr. Et je sais qu'ils ont plusieurs autres produits. Je ne connais pas tous, malheureusement. J'aimerais bien. Alors, ça vaut la peine. C'est disponible à plusieurs endroits. Je vais même vous donner le... C'est un ripon, eux. Alors, Domaine Mont-Vezeau, V-E-Z-E-A-U.com. Allez voir là, vous allez avoir toutes les informations pour pouvoir justement vous en procurer, savoir où vous en procurer. Ah, écoute, et des invités super intéressants. Ma première invitée, Julie Aubé. Julie Aubé, je ne sais pas si vous la connaissez. Si vous ne la connaissez pas, ça vaut la peine absolument. Elle a fait des choses vraiment, vraiment géniales pour tout ce qui est terroir québécois. Et on va lui jaser dans quelques instants. Ça ne sera pas bien long. J'ai trouvé une nouvelle façon de pouvoir communiquer. Là, je vais juste m'assurer que... Et voilà, ça va sonner.
Oui, bonjour.
Mademoiselle Julie Aubé.
Oui, c'est moi.
C'est Carl Urtubiz. Comment vas-tu?
Ça va très bien, toi aussi?
Ça va très, très bien. Merci de prendre le temps de pouvoir jaser avec nous. On va parler d'une couple de petites choses avec toi. La première, je vais faire pour les gens qui soit te connaissent peu ou te connaissent pas, un petit peu mini bio rapide. T'es une nutritionniste, si je ne me trompe pas, depuis 2006.
Absolument.
Fait que ça fait 14 ans que tu connais ton affaire au niveau de la bouffe. Mais tu es une passionnée de tourisme gourmand. C'est comme ça que tu te qualifies au niveau de ta description. Ça me parle énormément, moi, le tourisme gourmand. Ça englobe beaucoup de choses, dont la bonne bouffe. Je te suis quand même depuis un bon bout. Je suis un grand tripeux de tout ce que tu fais. Je vois que tu es une grande amoureuse de la nature. Et là, tu as lancé... en 2016, tu as lancé ton premier livre parce que tu es peut-être une nutritionniste, mais là, je commence à te qualifier d'écrivaine.
Parce que t'as lancé... on peut porter plusieurs chapeaux. Hein?
Ben oui, certain. Donc, tu as lancé ton premier livre qui s'appelle « Prenez le champ » en 2016. Et là, tu viens de lancer un livre, évidemment, dans un mode un peu plus différent. Je ne sais pas si c'est quelque chose à laquelle tu t'attendais vraiment. Je ne pense pas. C'est ton nouveau livre qui s'appelle, et là je le dis d'un coup, là, ça s'appelle « Manger local, recettes et techniques de conservation pour suivre le rythme des saisons ». C'est donc bien cool.
Eh hey, bien, merci pour ton enthousiasme, ça me fait vraiment plaisir. Puis je rebondis sur ce que tu disais. T'sais, moi, je vois quand même une suite logique entre les deux ouvrages, en ce sens que Prenez le champ, c'est des portraits de producteurs et d'artisans gourmands du Québec qu'on peut aller visiter. Donc, l'invitation qui était lancée aux gens avec Prenez le champ, puis qui l'est toujours pour les gens qui ont Prenez le champ sous la main, c'est vraiment d'être capable d'associer des histoires, des visages, des paysages, des villages aux aliments. Pour que les aliments prennent plein de sens dans notre assiette, puis que chaque bouchée soit gorgée de ces saveurs-là, là, gorgée de bonne fraîcheur, de bonne saveur, mais que ça soit nourrissant pour le corps et l'âme en même temps, parce que mieux connaître notre territoire, ça nous fait plus apprécier aussi le travail des agriculteurs, puis la chance qu'on a d'avoir des aliments de proximité dans notre assiette. Et donc, le deuxième livre qui vient de sortir cette semaine nous donne des pistes, puis des outils, puis des astuces concrètes pour mettre les aliments des producteurs de près de chez nous au menu à l'année. Parce qu'une fois qu'on est retombé en amour avec l'agriculture de proximité, les gens qui nous nourrissent, notre fabuleux territoire nourricier, ben c'est ça qu'on a envie de mettre au menu plus souvent. Puis certainement, ben qu'il y a des façons de se faciliter la vie, que ce soit autant du côté de l'approvisionnement que du côté de la conservation des aliments pour être capable d'en manger toute l'année.
Ben, en fait, c'est ce que je trouve vachement cool parce que, comme je disais justement, je te suis quand même depuis un bon bout et dans tes recettes puis dans tes publications sur les réseaux sociaux, souvent tu vas aller chercher l'idée de dire on prend un produit en ce moment, mais c'est pour l'idée de le conserver puis de le savourer à un autre moment de l'année. Donc, je trouve ça vraiment hyper, hyper intéressant. Là, je vais juste mettre le visuel, justement, on voit le visuel là, de ton super beau livre. Dans ça, il y a des recettes, il y a des techniques, il y a une couple de choses différentes, c'est ça?
Oui, absolument. En fait, la structure, c'est que les chapitres, ce sont les mois de l'année, en commençant par maintenant, le début de la belle saison des récoltes. Et donc, à chaque mois, pendant la saison des récoltes, ce que je propose, c'est une mission d'approvisionnement. Donc, peut-être une façon de s'approvisionner qui fait peut-être pas partie de nos habitudes en ce moment, mais qu'on peut se proposer de se lancer ça comme mission. Ensuite, il y a une technique de conservation des aliments pour chaque mois, puis des recettes qui utilisent les produits qui sont en saison dans le mois en cours. Mais qui sont pas nécessairement à savourer maintenant. C'est des recettes qui sont pour être savourées plus tard. Donc, c'est des recettes de provision, si on veut. Et donc, à chaque mois qui passe, les techniques s'accumulent, mais les arrivages, eux, évoluent. Donc, finalement, les recettes vont s'additionner plus la saison avance parce que là, tout d'un coup, on remplit notre coffre à outils de nouvelles techniques de conservation qu'on peut appliquer avec les arrivages qui, eux, vont changer. Puis nous amener de la nouveauté là au fil de la saison. Et la deuxième partie du livre, ben ce sont les mois plus froids, donc notre hiver, les mois où on est encore capable de trouver un paquet d'aliments locaux. Hein, quand on pense aux grains, aux farines locaux, au fromage, viande, œufs, légumineuses, huiles locales, ce sont tous des aliments produits autour de chez nous qu'on peut trouver quand même facilement, même l'hiver. Là où on a un défi, nous, avec nos saisons, ben c'est les fruits et les légumes, les aliments plus passagers dans notre calendrier. Et puis, c'est pour ça que le livre focus sur les fruits et les légumes, parce que ce sont les aliments que j'appelle plus passagers. Puis, on est donc content d'avoir une belle conserve là, de bleuets pendant l'hiver ou encore des fraises congelées. T'sais.
Exact, exact. Je vais te poser une question, peut-être une question très difficile. Mais j'aimerais ça que tu sois vraiment le plus honnête possible. Dans ton livre, la recette à ne pas manquer, qui toi te fait triper, mais fois mille, ça serait laquelle?
C'est super difficile comme question.
Oui, hein?
parce que des recettes, tu sais, quand dans notre travail, moi dans mon travail, je développe des recettes, je teste des recettes, ça fait vraiment beaucoup partie de mon quotidien. Donc quand je fais un livre puis qu'au final il s'en retrouve à peu près une cinquantaine seulement dans le livre, c'est que c'est les 50 que j'ai vraiment choisi qui valaient vraiment la peine de partager. Mais je peux me prêter au jeu quand même. Oui, mais je peux me prêter au jeu quand même parce que bientôt va arriver la belle saison de nos framboises. Puis il y a une des façons que j'aime vraiment pour les conserver, parce que bien sûr, ça se congèle super bien. Là, des framboises, c'est une des façons faciles de les conserver pour l'hiver. Mais quand on parle de congélation, en fait, il y a tellement d'aliments qui se congèlent bien qu'à un moment donné, les gens rencontrent le défi de l'espace dans le congélateur. Il faut être réaliste hein, avec le projet de conservation des saisons. Et donc, je donne plein de trucs dans le livre pour gagner de la place au congélateur. Mais un des trucs, c'est aussi de développer des habiletés avec d'autres techniques de conservation qui permettent de garder les saveurs à l'extérieur du congélateur. Puis la mise en conserve, mais c'en est une. Et je trouve que les framboises, c'est un fruit qui se prête très, très bien à la technique de la mise en conserve. Puis je parle pas nécessairement de confiture parce que les confitures, bon, évidemment, c'est délicieux, mais ça reste un aliment sucré et non pas nécessairement une portion de fruits pour notre journée, là. Donc, ce que je propose comme recette, c'est des framboises en conserve, mais dans un sirop léger à l'érable. Donc, c'est plus comme des fruits, qui c'est pas une confiture, là. C'est vraiment des fruits qu'on peut manger comme de la framboise nature, mais légèrement sucrée à l'érable. Puis je trouve, moi, ça, quand j'ouvre un pot de ces pots-là, je les ouvre pendant l'hiver, évidemment. Là, oui. Puis quand j'en ouvre un, c'est que du bonheur.
Mais c'est très cool parce qu'en fait, j'ai l'impression qu'avec ce livre-là, tu peux facilement ramener le cool de la conserve, justement. Tu sais, on s'entend, là. Je veux dire, t'es pas nécessairement très, très vieille, là, mais je veux dire, nos parents, ils faisaient ça, des conserves, puis on a comme perdu un peu le thrill de le faire. Mais là, je trouve qu'avec ce livre-là, c'est ça qui est vraiment le fun. Tu nous ramènes ce concept-là, et je vais dire à la cool, justement, parce que là, c'est le fun. On mange local, puis on peut conserver. Moi, je me souviens, ce qu'on disait dans le temps, bien, pas ce qu'on, mais je veux dire, ce que les gens disaient dans le temps, c'est, bien, tu devrais acheter tes fruits et tes légumes quand ils se font donner.
Mm-hmm.
Donc, dans la haute saison, où est-ce que c'est le moins cher? Et puis après ça, bien, tu peux les conserver. Donc, je trouve que justement, tu ramènes ce concept-là très, très cool. Écoute, c'est un processus de combien de temps que ça t'a pris pour ce livre-là? C'est pas quelque chose qui s'est fait très, très rapidement quand même.
Absolument pas, parce qu'effectivement, c'est le développement de ces recettes-là, considérant que je suis les saisons d'abondance des récoltes quand elles sont locales, ben c'est comme si finalement j'ai une fois par année que je peux la tester ma recette. C'est un peu comme en agriculture, finalement, tu sais, quand un agriculteur essaye quelque chose au champ. Ben ça marche pas, mais c'est la nuit d'après qui recommence. Ben il y a beaucoup de mes recettes que c'est un peu ça. Finalement, il fallait que j'attende la prochaine saison pour continuer mes tests. Donc je dirais que les processus de développement des recettes, c'est sûrement sur des années parce que c'est un processus un peu en continu. Mais l'écriture intensive là du livre, c'était la dernière année. Puis tu sais, pour l'anecdote, c'est un peu drôle. Le livre était revenu de chez l'imprimeur au début mars.
Okay.
Et puis le 13 mars. On ferme le Québec et donc tout est fermé. Puis le livre a finalement dormi dans les boîtes pendant presque 3 mois alors qu'il était imprimé. Puis là, finalement, pendant la pandémie, tout le monde a eu l'achat local sur les lèvres plus que jamais. Et moi, j'étais comme, oh non, le livre est dans les boîtes au moment où tout le monde pourrait l'utiliser.
C'est une question de fraction de seconde quasiment, là.
Oui, il était revenu de l'imprimeur. Mais donc ça souligne aussi que tu sais, c'est pas quelque chose que c'est loin d'être un projet que j'ai fait en réaction à la pandémie, parce que ça faisait des mois voire des années qu'il était sur la planche à dessin, puis que le travail était effectué déjà, là. Fait que c'est, moi je le vois juste comme, finalement, ben tant mieux si le contexte rend des oreilles plus attentives au message. Ce qu'on observe, c'est qu'il y a des gens plus motivés à faire des pas de plus vers mettre la proximité au menu. Puis ça, ben tant mieux si mon livre arrive comme un outil au bon moment pour les personnes motivées à le faire, là.
C'est très cool. Tu manges local depuis officiellement combien de temps, d'après toi? Est-ce que c'est vraiment depuis vraiment longtemps, ou est-ce que c'est quelque chose que tu as découvert au fur et à mesure des années, de dire « Hey, on fait des bonnes choses chez nous? »
Ben, c'est un processus. Okay. Il n'y a pas eu un moment marqué que du jour au lendemain, on change, en fait. Mais c'est certain que dans mon histoire personnelle, ça rime avec la découverte de cet univers fascinant qui est l'agriculture chez nous, ici sur notre territoire, puis de fil en aiguille, à découvrir ces gens passionnés et passionnants qui ont tellement un savoir-faire qui m'impressionne. Tu sais, moi, je le dis à chaque fois que j'ai l'occasion de le dire. Moi, les agriculteurs, ce sont mes idoles. J'ai vraiment une admiration sans borne.
Ils sont vraiment hot, là. C'est incroyable.
Vraiment, tu sais. Puis le savoir-faire, puis l'espèce de fait que produire les aliments, c'est vraiment un mode de vie, tu sais. Ça nous habite du matin au soir, ça fait partie de toutes les réflexions, la météo influence notre travail. Tout est là. Je suis vraiment impressionnée. Puis Je trouve que c'est un privilège, dans le fond, de pouvoir avoir plein de façons de s'approvisionner pour mettre ces aliments-là dans nos assiettes. Donc, ma volonté de manger local, tu sais, c'est bien sûr un plaisir gustatif, mais c'est tout le plaisir du sens que j'y vois, puis de supporter un système alimentaire local qui est vitalisant pour le territoire, qui habite, en fait. Tu sais, l'agriculture, ça habite le territoire, ça vitalise le territoire, puis ça me touche aussi beaucoup comme enjeu. Une agriculture qui est près de la nature aussi, évidemment, on sait que se nourrir, faire de l'agriculture, c'est pas sans impact sur l'environnement, puis des modes de production plus près de la nature, c'est quelque chose qu'on est capable de mieux connaître quand on s'informe sur les méthodes de production, puis quand on a des conversations avec les agriculteurs, on s'informe aussi sur ces sujets-là. Et donc, petit à petit, on découvre un produit qui peut en remplacer un autre, on découvre une façon de cuisiner un produit local qu'on connaissait peut-être moins avant. Fait que c'est vraiment petit à petit, au fil des années, qu'on locavorise son alimentation. Puis, j'ai essayé de traduire ça dans le livre avec l'idée du mois par mois, de pas essayer de tout faire les changements en même temps, mais de se donner la latitude que ce soit un processus, puis que ça a tellement pas besoin d'être noir ou blanc. Puis, tu l'as peut-être observé, mais dans l'introduction, je l'ai dit d'emblée aussi que je pense pas que c'est nécessaire de se donner 100% local comme objectif. Je pense que on peut faire une recette 100% locale. À l'échelle d'un repas, c'est quand même des beaux petits défis qu'on peut se lancer. Mais de façon générale, je pense que si on vise le 100%, ben ça peut devenir une contrainte ou un stress, ou ça amène de la culpabilité dans l'équation. Puis je pense pas que ces mots-là, je pense qu'on peut les laisser de côté. Là. Je pense qu'on peut miser sur le plaisir de faire des pas en avant sur le chemin de la proximité. Là.
Exact. Tranquillement, pas vite. Je pense que c'est quelque chose qui
se développe. À son rythme. Hein?
Mm-hmm. Oui, exact. Puis, t'es une des personnes qui m'a beaucoup influencé vers ce changement-là il y a quelques années. En te suivant, j'avais décidé de prendre ce virage-là, mais en te suivant, c'est que ça donne des idées, c'est le fun. Puis, je trouve ça tellement cool que de plus en plus de gens viennent qu'à se donner un peu ça comme mission. Tu vois,
moi,
c'est depuis 2016 que j'ai fait ce choix-là pertinemment de dire non, moi, je vais commencer vraiment à focusser pour pouvoir acheter le plus localement possible. Je me suis donné un défi en 2016, c'était de ne boire que de l'alcool local pendant 12 mois.
Oui.
Et je me suis mis à découvrir des choses incroyables parce que je me forçais à le faire.
Bien, bien sûr.
C'est une petite chose, tu sais, que je me suis dit, OK, je vais faire ça pour cette portion-là. Puis au fur et à mesure, à un moment donné, tu fais comme, ben là, mon Dieu, je peux. Mes légumes. Ah ben, mon Dieu, attends une minute, je peux acheter ma viande à côté. Ah ben, puis c'est tranquillement, justement, comme tu dis, c'est un processus, c'est très cool.
Ben,
en fait.
Bien sûr.
Écoute.
Ben oui, puis ce que tu as mentionné, c'est l'idée que, relativement à ton défi, c'est l'idée que dans la contrainte que tu t'étais donnée, ben ça te fait découvrir des choses. Fait que, tu sais, il y a des éléments d'ailleurs, des aliments importés vers lesquels on va par réflexe ou par habitude, mais que si on se donne juste un petit, tu sais, j'aime pas trop le mot contrainte, mais mettons qu'on se donne le défi d'aller vers du plus local, ben juste avec dans le cadre de ce défi-là, finalement, on ça nous rend plus créatifs ou ça nous inspire à faire des choses qu'on faisait peut-être sur un mode automatique avant. Mais tu sais, je pense que c'est important des fois, dans la contrainte, on devient créatif. Puis nos saisons, d'une certaine façon, nous amènent tant de beau, mais une certaine contrainte au point de vue des arrivages des fruits et légumes. Donc, soyons créatifs. Planifions un petit peu nos affaires parce que certainement, si on veut manger local l'hiver, il faut le voir venir un petit peu. Ne visons pas à 100% pour pas se mettre de fausses pressions inutiles, mais avançons dans cette savoureuse direction.
Exactement. J'aime tellement, mais tellement ta façon de penser, Julie. C'est hyper inspirant. On peut te suivre sur ta page Facebook, Julie Aubé. On peut aller sur ton site internet, Julie Aubé, en fait, julieaube.com. Je vais te poser une dernière question avant qu'on se laisse. Julie, je sais que justement, comme je te dis, j'aime beaucoup ta façon de penser, puis je sais que tu ne prônes pas de faire le changement, non plus de juste tout prendre local. Tu prends certaines choses qui ne sont pas locales, mais je vais te poser une question quand même assez difficile. Parmi ce que tu prends, que tu ne changes pas parce que justement, soit qu'il n'y en a pas au Québec ou des choses comme ça, qu'est-ce que c'est la chose ou l'aliment que tu aimerais donc remplacer par du local si c'était possible? Ça serait quoi?
Mais c'est facile de répondre, c'est que moi, je commence mes journées avec un bon café le matin.
Ouais. Hey, ça serait comme cool d'avoir du café québécois. Imagine, là, si on pouvait en avoir du café québécois, ça serait quand même assez épatant.
Mais cela dit, on a quand même des torréfacteurs québécois, on a des cafés de quartier, des cafés de village. Donc, je pense qu'il y a quand même moyen d'injecter un petit peu de réflexion puis de proximité dans notre choix de café.
Oui.
Mais effectivement, le café, ça pousse pas ici. Et donc, y a pas, moi, je vois pas d'enjeu à boire un bon café le matin pour commencer la journée.
C'est très correct. Julie, un énorme merci. Je pense qu'on pourrait jaser probablement pendant des heures et des heures. Déjà,
sûrement.
Moi, j'ai bien de la jasette, mais je vois qu'on pourrait vraiment connecter sur beaucoup de points. Ça serait très, très cool. Julie, j'espère qu'on va avoir la chance de se rejaser. J'aimerais ça peut-être éventuellement quand on va avoir le droit, peut-être justement qu'on puisse faire un podcast. Nos podcasts sont faits en collaboration avec la boîte à vin qui vont avoir leur propre local directement dans le magasin Le Bocal à Belleuil. Je ne sais pas si tu connais l'épicerie Au Bocal?
Mais le nom me dit quelque chose, mais je ne suis jamais allée.
OK. C'est une épicerie zéro déchet, en fait. Puis, il se lance vraiment dans être le plus gros, grande surface zéro déchet au Québec.
Même, d'accord. OK.
Même slash, je pense que la surface représentée va être la plus grande, peut-être au Canada. Et puis, à l'intérieur, il y a la boîte à vin qui sont un représentant de vin québécois. Seulement une boutique de vente en ligne de vin québécois et on les fait sur place majoritairement quand on a le droit. Et là, justement, j'espère qu'on va avoir le droit bientôt. Puis ça va me faire, j'aimerais vraiment ça qu'on puisse t'inviter puis que tu puisses être sur place avec nous autres. Ça serait très, très cool.
Bien, en tout cas, merci beaucoup pour ton intérêt puis au plaisir.
Bien, merci beaucoup puis on s'en reparle.
Merci beaucoup. Bye-bye.
Bonne fin de journée. Bye. Je vous le recommande fortement, que ce soit le livre, que ce soit d'aller voir même sa page Facebook. Il y a des recettes. Et moi, en fait, dans les recettes, je vous jure, c'est, c'est incroyable. C'est des recettes. Il y en a une là, que je vais me taper. C'est officiel. Et c'est une recette. Je vais juste m'assurer de la dire comme il faut. Ce sont des biscuits aux pépites de chocolat. Et cèdre. C'est pas n'importe quoi, là. C'est très spécial. Je pense que c'est très unique comme goût. Donc, je suis vraiment comme super, super fou énervé. Je veux l'essayer. Je veux que ça puisse être quelque chose de complètement différent. Évidemment, c'est une petite quantité, mais c'est quelque chose qui va être vraiment... J'ai out là, de l'essayer. Ma deuxième invitée, on tombe dans quelque chose d'un peu différent, mais de vraiment, vraiment très cool. Je vous présente mademoiselle Nathalie Thivierge. Bonjour Nathalie.
Hey, bonjour Carl, comment ça va?
Ça va bien et toi?
Excellent, merci. Je me trouve présentement devant à peu près le plus beau paysage pour te jaser. J'en suis très contente.
T'es dans quel coin Nathalie?
Alors, je suis présentement à Rougemont. Je suis au bout du stationnement de la cidrerie Michel Jaudoin, où est-ce qu'on a à nos pieds le verger, justement, qui fait ces merveilleux produits-là. Et puis, une journée comme aujourd'hui, fallait en profiter à être dehors. Fait que c'est ce que j'ai fait.
Wow! C'est tellement cool. Nathalie, j'ai choisi de te réinviter encore parce que tu étais une des usual, là, des common dans notre podcast auparavant. Tu es une guide touristique. J'aimerais ça qu'on parle un peu justement de la réalité d'une guide touristique au Québec quand la COVID frappe et que là, on ferme toutes les frontières. Comment ça t'a affecté de ton côté?
Bien, en fait, pour autant moi que pendant toute l'industrie du tourisme, ça a été une halte immédiate et qui ressemble à pas mal vouloir perdurer pour le reste de la saison. Donc, juste pour mettre les gens en contexte, la saison touristique québécoise, si on parle des touristes qui viennent de l'étranger, autant des États-Unis que de l'Europe, de l'Asie, je vous dirais qu'au mois d'avril, ça commence à se réveiller avec surtout des Américains qui viennent passer des week-ends, le mois de mai encore un petit peu plus, mois évidemment de juin, juillet, août et c'est drôle à dire, mais septembre et octobre sont les gros mois touristiques à cause des couleurs.
Ouais.
Donc, finalement, nous, on était les guides, les restaurants, les attractions touristiques, on était tous prêts à une belle saison. Ça fait plusieurs années où est-ce que le tourisme est en hausse à chaque année. Les chiffres sont bons, on était prêts. Et pouf, COVID. Donc, faut se revirer de bord. On était, en passant, très reconnaissants parce que je sais que c'est critiqué et puis les gens ont leur opinion à eux de la TCU, mais pour des gens comme moi, où est-ce qu'on doit faire notre année en à peu près 7 mois, des fois, si on est chanceux, 8 mois de travail, parce que des fois, il y en a un petit peu autour de décembre. Donc, quand on arrive en début de saison et puis qu'on comprenne qu'il n'y aura pas de revenus dans notre métier, ben, c'est un petit peu dur à accepter des fois, puis il faut se trouver une réalité différente. Fait que finalement, on avait un beau groupe, les guides touristiques de Montréal, on se faisait des 5 à 7, on a profité un peu et tout, et après quelques semaines d'inaction, ben plusieurs d'entre nous, on s'est dit, ben ok, qu'est-ce qu'on fait? Fait que j'ai un collègue, lui, qui est allé travailler chez Family Prix, je crois, à Montréal. Donc, plusieurs essaient de tirer un peu leur épingle du jeu. Et moi, j'ai pensé justement à nos producteurs locaux, parce que je pense, corrige-moi si je me trompe, Carl, mais tu as parlé à plusieurs gens, et puis une des réalités qui s'avérait être pour tous, c'est des fois le manque de personnel parce qu'on avait des travailleurs qui venaient de l'étranger.
Exact.
C'est constant. Fait que moi, j'ai réfléchi, puis aimant être dehors, aimant les produits, j'ai décidé, comme le gouvernement me payait déjà 1-2 000 $ par mois, ben d'aller offrir mon temps.
Okay.
Fait que vous voyez, la première place où j'ai offert mon temps, les pépinières ouvraient au mois de mai, et puis moi, je suis de Carignan. Et puis, il y a une pépinière qui s'appelle les Serres Dauphinais. En fait, il y en a quelques-unes. Je crois que c'est toutes dans la même famille, mais opérées séparément. En tout cas, la dynamique en arrière, je suis pas très certaine. Mais je m'en vais acheter mes plants d'asperges. En passant, j'ai 7 nouveaux plants d'asperges. J'en suis particulièrement excitée.
Et j'en suis très jaloux.
oui, absolument. 7 asperges, 3 beaux plants de bleuets. Et quand je suis à la caisse, je remarque toutes les initiatives qui ont dû être prises pour répondre justement aux normes sanitaires du COVID. Et puis, je m'adonne à croiser la propriétaire duquel je ne savais pas du tout que c'était la propriétaire en lui disant « Hey, good job! Félicitations pour vos installations. Je trouve que vous avez bien réagi. » La demoiselle qui était sur le bord, en fait, qui avait ouvert depuis 2 jours, me regarde et a dit « Hey, merci parce que j'en ai sué une shot. » On voyait qu'elle aussi avait pas reçu tous les travailleurs qui normalement viennent travailler. Il y en a quelques-uns qui étaient arrivés parce que les autres commencent à planter au mois de décembre-janvier. Fait qu'il y en avait quelques-uns d'arrivés, mais pas tout le monde. Puis, clairement, en bon français, elle était à bout.
Ouais.
Fait que là, on est samedi, on retourne à la maison, dimanche, c'était fermé, tous les commerces étaient fermés les dimanches, et pendant on est en terrasse, mon conjoint et moi, et puis là, on est en train de se boire quelque chose de nice, puis je me dis, hey, j'aime ça, moi, les plantes, puis j'ai du temps, puis j'ai quelqu'un d'autre qui me paye, qui est le gouvernement. Fait que, en fait, c'est nous tous, hein, merci à tous, clairement, c'est nos impôts à tous qui payaient mon 2 000 $ par mois, fait que merci à tous.
Ça me fait plaisir.
Et cela dit, le lundi, je suis allée proposer à Véronique, la propriétaire, mon temps. Elle m'a dit en premier lieu, ben écoute, je suis pas capable de te payer. Je sais qu'est-ce que tu gagnes comme guide touristique, puis je suis pas capable de te payer. J'ai dit, laisse-moi te rassurer, je vais venir t'aider, je vais te donner les heures que je suis capable de te donner, puis c'est pour t'aider.
Mmh.
Et puis j'ai plein d'eau.
Wow.
Je te jure, j'ai fait toute la grosse saison, à peu près 4 semaines là-bas. Et puis, elle me présentait aux gens comme étant son ange. Écoute, hyper gratifiant pour l'ego.
Oui.
Je te dirais pas que j'ai pas eu quelques belles petites plantes à planter dans mon jardin gratuitement. J'ai eu des beaux cadeaux.
C'est du trac.
Mais à la base, c'était simple. Je voulais peut-être jeter la lumière au fait que on est plusieurs présentement qui sont en pause forcée. Puis c'est certain que on aimerait tous se retourner travailler dans nos métiers respectifs. On aimerait ça aller gagner des sous qu'on est habitué de gagner. Mais présentement, la réalité, c'est que ça sera peut-être pas cette année.
C'est ça.
Fait que moi, j'ai choisi de faire ça, puis ensuite, quand ça s'est bien passé, ben j'ai lu sur Facebook un autre appel à l'aide de ma collègue Gabrielle qui travaille à la cidrerie Michel Jodoin. Là, c'est elle qui disait, hey, s'il y a des gens qui veulent venir faire des heures, nous autres, on est prêts à vous prendre. On va vous aimer. Parce que j'ai enfilé ma belle veste Michel Jodoin et c'est là, pendant un moment de pause, que je suis que j'ai pris de mes heures de travail chez Michel Jodoin, que je suis venue vous parler devant à mes pieds tous les beaux ponies qui nous donnent ces produits-là.
Oh, mais c'est donc bien cool, c'est très cool. Ben écoute, effectivement, ça peut être une superbe option de pouvoir offrir son temps. D'ailleurs, justement, la PCU qui s'extensionne pour les deux prochains mois. Donc, ça vient d'être confirmé. Fait que s'il y a des gens justement qui sont sur ce programme-là et qui veulent offrir du temps, je sais qu'il y a encore beaucoup de producteurs qui en ont besoin, que ce soit justement au niveau industriel, que ce soit au niveau manufacturier, que ce soit au niveau justement des endroits comme justement chez Michel Jodoin ou d'autres producteurs aussi. Est-ce que ça change la donne par rapport à certains projets? Est-ce que tu prévois justement modifier? As-tu modifié quelque chose par rapport à ce que tu prévois faire maintenant?
Bien, c'est certain qu'avec le tourisme qui va s'avérer local, puis moi, je fais un petit aparté, je suis tellement excitée de la réponse que les gens ont donnée à l'achat local. Il me semble que ça faisait un moment qu'on voyait ça, puis l'eau frémir, puis on voyait que les gens avaient envie d'encourager. Puis on dirait que ça l'a donné la petite poussée à dire, « Hey, moi, mon voisin, il fait de la viande de lapin ou il élève des poules pour ses œufs. » Et on dirait que tout le monde a eu envie de garder l'argent dans les communautés et tout. Fait que, comme de fait, moi qui normalement offre pas mal tout le temps des clients, j'ai beaucoup d'Américains dans ma business à moi, j'ai décidé en fait de monter peut-être quelque chose qui serait plus régional au niveau des tours. Donc, présentement, je travaille évidemment. On a, juste pour mettre en contexte un petit peu, petit à petit sont déconfinés les produits touristiques. Il y a certains aspects qui sont pas encore tout à fait clair. Justement, ma collègue Gabrielle et moi, aujourd'hui, on se posait la question à savoir quand est-ce qu'on allait pouvoir faire les dégustations, les fameux tours guidés de la cidrerie puis les dégustations. On s'était demandé, les gens ont hâte de revenir, de passer un peu de temps au champ, de jaser de cidre. Mais sachant pas ça, mais qu'on peut avoir des groupes, je crois, de 15 personnes, tant que tout le monde respecte la distanciation sociale, ben ça m'a donné envie de monter en parallèle deux choses. Présentement, je te donne un petit scoop, je pense qu'on n'avait pas parlé encore dans nos conversations one-on-one, Carl et moi, ben je suis en train de monter un produit sur une petite visite guidée de Chambly. Tu sais, on sous-estime l'histoire qu'il y a en région parce que souvent on dit, ah ben Montréal, puis Québec, tu sais, c'est là que tout s'est passé, mais attention, il y a plein de choses qui s'est passé, puis la Vallée des Forts, c'était un grand autoroute maritime et la ville de Chambly en a encore des super beaux vestiges. Je suis en train de travailler en parallèle là-dessus et j'ai eu une idée duquel je t'ai parlé puis tu m'as encouragé à développer encore. C'est encore les premiers balbutiements, mais si les gens aimeraient suivre la page Native Tour, qui est ma page que je viens juste de créer, vous allez remarquer, il n'y a pas grand-chose. Mais c'est parce que je l'ai ouvert, je pense que c'était mardi. Mais justement, dans l'optique de faire ces produits-là puis d'offrir les produits touristiques avec, évidemment, les détails vont venir sur la page Facebook. J'ai choisi de pas me casser la tête à créer un gros site web et tout. Facebook, c'est accessible. La majorité des gens y sont ou connaissent quelqu'un qui y est. Fait que je pense que l'information passe bien. Mais c'est ça, le deuxième produit touristique que j'aimerais monter. J'ai eu une idée du nom. Je veux appeler ça « Le guide est dans le champ ». Je me trouvais drôle, en fait, d'offrir à certains producteurs locaux, que ça soit pas juste cidre ou bière ou vin, qui sont évidemment mes grandes passions, sinon tout ce qui est agriculture maraîchère, d'offrir d'aller au champ. Les gens vont amener leur chaise, on va être peut-être, je sais pas, une vingtaine, une trentaine, de parler dans le champ, exactement, et de parler de l'agriculture de nos grands-parents, de faire une petite parcelle historique, mais tout ça à nous mener au producteur, à parler du producteur chez qui on va s'installer pendant cette journée-là et éventuellement de parler de ses produits pour mettre en valeur justement le terroir québécois, puis où on en est parti pour finir avec les six beaux produits qu'on a sur nos tables aujourd'hui. Fait que
wow.
Si jamais ça vous intéresse, ça me ferait super plaisir de vous y voir. Et puis, je vous rappelle la page Facebook, donc Native Tour, donc N-A-T-I-V-E T-O-U-R-S, donc mon nom c'est Nathalie Thivierge. J'ai comme joué un peu avec ça et puis j'ai créé mon nom de compagnie. Donc,
je vais mettre le lien justement dans les commentaires quand la vidéo va être terminée. Je vais ajouter le lien avec plaisir, c'est certain. Puis on pourra aller voir justement ta nouvelle page qui va être, j'imagine, populée sous peu.
Oui, bien, j'invite toutes les gens. Puis de toute façon, c'est certain que je vais probablement faire suivre l'information. Surtout, tu es une belle source. Moi, j'apprends plein de choses en suivant la page de Terroir, le tes blogs et tout, mon cher Carl. Fait que, tu sais, justement, faire circuler l'information. Puis encore une fois, donner. C'est en fait juste un petit peu pour faire connaître les produits qui sortent de l'ordinaire, puis même les choses qu'on peut aller chercher, mettre sur nos tables pour manger local, proximal, de minimiser notre empreinte écologique, même dans ces temps où est-ce que peut-être on a peut-être mis un petit peu de côté toutes les initiatives écologiques parce qu'on doit utiliser beaucoup de plastique et tout, ben on peut continuer à faire un pas dans la direction en achetant localement et en faisant moins voyager les produits.
Tellement. Je te recommande d'ailleurs, est-ce que tu connaissais toi Julie Aubé, qui était ma première invitée? Écoute, je te recommande fortement d'aller voir son livre « Manger local ». C'est incroyable et hallucinant. Vraiment, ça vaut la peine. C'est un excellent cadeau que tu peux t'offrir en tant que personne. Tiens, pour la Saint-Jean, un cadeau de Saint-Jean.
Exactement. Puis sérieusement, là, je t'explique parce que tu m'as parlé hier aussi hors d'onde. Je sais pas, tu m'as-tu parlé à tes auditeurs parce que je me suis tenue loin de ma radio quand j'entendais ton appel. Je voulais pas que tu fasses feedback, mais as-tu parlé de ce que tu as l'intention d'essayer?
Oui, les biscuits au cèdre. Oui, j'ai parlé justement juste avant que tu arrives en onde. Effectivement,
ça. Ah, ben, tu vois, c'est ça. Tu m'as parlé de cette recette-là que tu avais utilisée dans le livre. Et puis, je suis vraiment excitée. Puis, quand ça va être prêt, ça va me faire plaisir d'amener une perche puis d'aller en chercher un à 2 mètres et de déguster sans ta compagnie.
Ben, écoute, on essaiera ça avec grand plaisir.
Génial.
Cool. Merci beaucoup, Nathalie, d'avoir pris le temps de nous jaser. J'ai vraiment hâte, je vais dire vraiment comme ce que j'ai dit tantôt, j'ai vraiment très hâte qu'on puisse revenir à faire nos podcasts en personne, qu'on puisse avoir du one-on-one, puis qu'on puisse justement déguster des excellents produits, mais en gang, puis qu'on puisse échanger là-dessus. C'est très, très cool. Je trouve ça le fun.
J'y serai avec très grand plaisir. Tout si tu me manques, Caroline, des mois sans voir, là, c'est dur.
Ça fait, ça rentre dans le dash un petit peu.
Ouais,
Nathalie,
un
gros merci. Je te souhaite une bonne fin de journée puis on se reparle bientôt.
À bientôt, Carl.
Merci, bye.
Au revoir.
Ça va être quelque chose de super cool comme nouveau concept. En fait, nouveau concept, c'est des guides touristiques, mais plus au niveau des régions. Donc, justement, vous allez pouvoir aller voir la page Native Tour, la page Facebook. Je vais l'indiquer là en bas dans les commentaires, je vais la taguer. Et vous irez voir cette page-là pour voir au fur et à mesure qu'est-ce qui se passe sur la scène locale dans ce coin-là. Merci et ça fait c'est du bon produit, très agréable. Je vais juste leur dire une dernière fois, c'est le Zéphyr Domaine Montvezeau à Ripon. Et ça s'appelle un vin de fraise, littéralement. Moi, je le considère comme un peu un porto de fraises et ça vaut vraiment la peine de l'essayer. C'est délicieux, surtout comme je vous dis, on est en ce moment dans le temps des fraises. Imagine. Hey là, hey oui. Hey, tu vois, je viens d'avoir la conception d'un bol avec une crème glacée à la vanille, des fraises et un peu de zéphyr par-dessus. Je dis ça, je dis rien. Je vous souhaite une super belle fin de journée. Terroir, le podcast se fait relâche la semaine prochaine parce que la semaine prochaine, ça va être mercredi, on va être le 24 juin. Qu'est-ce que c'est le 24 juin? C'est la fête nationale, fête des patriotes. Et vous allez probablement être très, très, très occupé à faire plein d'autres choses. Alors, je vais vous laisser tranquille. Je vais faire relâche. Je vais voir si on en fait un pour le 1er juillet. Ça sera à vérifier au fur et à mesure. Mais pour le 24, profitez-en. Achetez local. Buvez justement. Buvez des bières de microbrasserie, des vins du Québec, des alcools du Québec. Il y a beaucoup de microdistilleries qui vous offrent des super produits. Faire des cocktails parce que là, justement, la saison chaude est arrivée. Donc, on a tout ce qu'il faut pour pouvoir se munir de bons produits québécois. Alors, que ce soit justement pour boire, que ce soit pour manger, je vous suggère de le faire localement. Je vous souhaite une bonne fin de journée. On se revoit la semaine prochaine, mais d'ici là seulement, toujours, soyez heureux.